Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Linda Busuma.
L'inspection générale de la police instruit tous ses éléments à ne pas noircir l'image de la RDC à la face du monde. Cette instruction est issue du récent Conseil des ministres. Elle fait suite à l'admission de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les élections des députés provinciaux et nationaux seront enfin réorganisées à Massimanimba dans le Kwilu en décembre prochain. C'est ce qui explique la présence d'une délégation de la CENI sur place, conduite par le deuxième vice-président Didi Manaralinga. Ces scrutins ont été annulés dans ce territoire à cause des actes de vandalisme et d'irrégularité. Et puis, l'Assemblée nationale aligne 513 députés nationaux au lieu de 500 requis. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local dénonce une gestion budgétaire contraire au règlement financier. Mais le bureau de Caméré explique que les 13 députés excédents sont ceux qui étaient invalidés lors de la précédente législature et ensuite remis dans leurs droits. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC siège désormais comme membre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ceci implique davantage d'efforts et d'engagement de la part des agents et inspecteurs de l'Inspection générale de la police pour réprimer et décourager tout acte de violation des droits humains au sein de la police nationale congolaise. La recommandation est du commandant de l'Inspection générale de la police, le général Patience Mouchidiave, instruit tous ces éléments à ne pas noircir l'image de la RDC à la fin du monde. Cet ordre a été donné lors d'une parade hier à l'esplanade de l'administration centrale de l'IGPNC à Kinshasa. Voici un extrait du message du général Mouchidiave proposé par Billy Van Lutumba.
Aujourd'hui, j'ai répété encore une fois les missions de l'inspection générale de la police. Surtout pendant ces derniers temps, vous savez que la République démocratique du Congo est dans les concerts des nations. Concert des nations, puisque nous sommes membres aujourd'hui des droits de l'homme à l'ONU. Il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de rappeler aux policiers, aux inspecteurs de la police, de bien combattre tout ce qui est torture, tout ce qui est défendu par les droits de l'homme pour que le monde accepte sincèrement que nous sommes membres. Nous devons prêcher par l'exemple. Alors, il était encore de mon devoir de dire aux inspecteurs que la charité bien ordonnée commence par soi-même, puisque le VPM, qui est mon chef direct, m'a demandé de sanctionner les policiers qui marchent sur les lois, sur les règlements, qui torturent la population, qui tracassent les chauffeurs. Je devais commencer à parler aux inspecteurs de bien se comporter.
Signalons par ailleurs que cette instruction à tous les inspecteurs intervient au lendemain de l'interpellation et recommandation du chef de l'État aux ministres et à toutes les structures concernées lors du récent Conseil des ministres pour que la gouvernance et les efforts pour le respect des droits humains dont fait montre la RDC ne soient pas ternis. Et puis, il a passé 4 mois de détention par les services de renseignement à Kinshasa et c'est sa toute première déclaration après sa sortie de prison. James Kenda Odu, opérateur économique et président de la Convention fédérale du Congo, appelle les Ituriens à l'unité pour le retour de la paix dans cette province en proie aux conflits armés. S'est confiant aux médias à son arrivée à Bunia, ce notable dont l'arrestation avait provoqué un tollé salue l'apport du chef de l'État qui, selon lui, s'est investi personnellement pour sa libération. Il demande aux jeunes qui ont pris les armes contre la République de les déposer en vue de contribuer au développement de cette province longtemps meurtrie. James Kenda Odu est au micro de Martial Kizabiamongu.
Mon retour aujourd'hui, je dis tout d'abord merci à tout le monde et je suis content de cet accueil. Je viens d'arriver à provenance de Kinshasa. Vous le savez, qu'on m'avait arrêté à Kinshasa, mais ma libération, c'est lui-même le chef de l'État. C'est pourquoi je vous demande tous de remercier le chef de l'État. Nous voulons la paix et c'est pourquoi nous demandons aux jeunes qui sont dans les groupes armés de mettre fin à cette histoire et que nous puissions tous œuvrer pour la paix. Nous avons besoin que ce pays aille de l'avant.
Rappelons que James Kenda Odu avait été arrêté avec l'un de ses proches par les services de sécurité à Bunia le 24 mai dernier, puis transféré 3 jours plus tard à Kinshasa. Son arrestation avait provoqué plusieurs réactions, dont celle des organisations de la société civile, des membres des communautés de l'Ituri et des députés. Tous avaient qualifié l'arrestation de cet acteur sociopolitique influent de la Grande-Orientale d'arbitraire. À Goma, la société civile urbaine condamne la persistance des cas de vindicte populaire dans la ville. C'est en réaction à une autre vindicte populaire qui a coûté la vie samedi à trois autres présumés voleurs au quartier Majengo. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Goma rassure que la justice fait tout ce qui est en son pouvoir pour réprimer le banditisme dans la ville. Retour sur les faits avec Bernard Nyangi.
C'est lorsque ces présumés voleurs tentaient d'opérer en plein jour samedi dans une maison de vente de téléphones mobiles au quartier Majengo, ils ont été maîtrisés par des habitants en colère. Sans aucune autre forme de procès, ils ont été brûlés vifs, moyennant des pneus et du carburant. Le président de la société civile coordination urbaine appelle à éviter cette pratique, Marion Ngavo.
La justice populaire, elle est interdite par la loi congolaise. Même les enfants qui sont autour peuvent croire que tuer quelqu'un par des coups de pierre, que c'est normal. Et ça, une conséquence dans le futur sur les actes. La cause, c'est l'irresponsabilité des autorités qui ne sont pas à mesure de punir les bandits qu'on les ramène.
Le procureur de la République est près le tribunal militaire qui ne reconnaît pas que cette culture de vindicte populaire soit une conséquence de la faiblesse de la justice à punir les crimes, appelle la population à bien s'informer avant de procéder à de tels actes. Paluku Kitambala Pascal.
Bon, je crois que c'est le manque d'informations. S'ils ont besoin d'avoir les informations qu'ils passent chez nous, aient confiance à la justice, aient confiance au service de sécurité.
Rappelons que depuis quelques mois, il ne se passait pas une semaine sans assister à un cas de justice populaire dans cette ville chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma. Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la situation est restée tendue toute la journée d'hier dans les localités de Kalembe et Kishali, à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga. Nous sommes toujours au Nord Kivu. La zone a été le théâtre d'affrontements opposant les rebelles du M23 aux groupes armés VDP et Wazalendo. Après avoir perdu ces localités en faveur des rebelles M23-RDF dimanche, les combattants de Nduma pour la défense du Congo sont revenus à la charge depuis 10 heures locales hier. Certaines sources affirment qu'autour de 15 heures, les combattants de Guidon Mouissa auraient réussi à déloger les rebelles M23 et à reprendre le contrôle de Kalembe. Toutefois, la zone reste instable, indiquent les mêmes sources. Je vous l'ai dit dans les titres, au Kwilu, les élections des députés provinciaux et nationaux qui ont été annulées dans le territoire de Massimanimba à la suite des actes de vandalisme et d'irrégularité seront enfin réorganisées le 15 décembre prochain. Les préparatifs qui ont déjà débuté se déroulent normalement afin que ces élections soient une réussite. C'est ce qu'a dit le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, qui conduit une délégation en séjour à Massimanimba pour cette cause. Il l'a dit dimanche devant la presse locale à l'issue d'une réunion préparatoire avec les parties prenantes sur place à Massimanimba. On écoute Didi Manaralinga dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Donc nous sommes ici dans le cadre des préparatifs de la reprise des élections. Et ces élections-là auront lieu le 15 décembre de cette année. Réorganiser ces élections qui ont été annulées par la CENI à cause des vandalismes, à cause de toutes les violations de la loi par rapport à la tenue apaisée des élections du 20 décembre. Donc, nous sommes ici pour tous ces préparatifs sur le plan sécuritaire. Nous venons de terminer la réunion, la toute première réunion avec le Conseil. Sur le plan opérationnel, sur le plan technique, nous voulons nous assurer que tout se passe bien et qu'au 15 décembre, Massimanimba aura ses élus au niveau national et au niveau provincial pour que par la suite, nous tenions des élections indirectes pour que toute la province du Kwilu puisse avoir cette fois-ci maintenant des sénateurs, mais également les membres de l'exécutif provincial, c'est-à-dire le gouverneur, vice-gouverneur, ainsi que les ministres provinciaux.
Dans l'actualité aussi, sit-in des conseillers communaux de la ville de Kinshasa hier devant l'hôtel de ville. Ils réclament une meilleure collaboration avec les bourgmestres actuellement en fonction dans les communes. Les conseillers communaux estiment que le cadre de travail n'est pas respecté. Ils revendiquent également leurs frais de fonctionnement non perçus jusqu'à ce jour, après pratiquement 10 mois de prestations. Patty Kumambu, président du caucus des présidents des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, explique ce qu'il en est au micro de Babel Mpongo Masimango.
Nous avons deux revendications. Nous ne sommes pas venus revendiquer les élections de bourgmestre. Nous revendiquons primordialement le respect des cadres de travail entre le bourgmestre nommé autrefois par les décrets-loi et nous, les élus au niveau communal. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a blocage. Le bourgmestre ne veut pas collaborer avec le conseil pour Kinshasa. Nous avons proposé au président de l'Assemblée provinciale, en collaboration avec le gouverneur, qu'il convoque tous ces bourgmestres et nous, les élus au niveau communal. Ce sont nos autorités provinciaux qui peuvent nous faciliter ce cadre de travail. Deuxièmement, c'est par rapport à nos frais de fonctionnement au niveau du conseil évoqué par le premier ministre par rapport à sa dernière sortie médiatique évoquant que nos frais de fonctionnement de conseillers ont été déjà versés au niveau de l'exécutif provincial. Jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur reste inactif par rapport au décaissement de nos frais de fonctionnement.
Dépôt hier lundi au bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14 du 11 février 2014 sur la conservation de la nature. Cette proposition de modification de la loi de 2014 est l'initiative du député national Célestin Engelemba avec à l'appui financier et technique de l'ANAPAC RDC et experts juristes et activistes. Les innovations contenues dans cette nouvelle proposition de loi sont notamment la protection des populations vivant dans les aires protégées face aux animaux, mais aussi l'implication des riverains dans la création des aires protégées. Le député national Célestin Engelemba explique au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venu déposer une proposition de loi modifiant et complétant la loi 14. Cette loi, c'est vrai que même si on attendait les mesures d'application, mais il s'avérait qu'il y a eu d'autres matières de la bonne gouvernance environnementale qui étaient restées et nous devrions compléter. On a toujours l'envie de créer par moment des aires protégées, des parcs dans notre pays. Mais il faut tenir compte, impliquer la communauté, et que la communauté arrive à accepter le processus pour qu'on puisse dire, ok, on peut certainement ériger une zone de conservation. Nous devrions associer la communauté pour arriver à ça. La loi 14 ne parle pas de la protection de l'homme face à l'animal. Donc il y a des animaux protégés qui arrivent à menacer et à tuer l'homme. Mais quand ils tuent l'homme, personne ne parle. Il n'y a même pas un PV qui s'est fait. Donc nous, comme parlementaires, dans les billes de bien garder la biodiversité de notre pays, nous avons pensé à mener un plus.
Et nous poursuivons avec notre série de reportages sur l'évaluation de la mesure du ministre Julien Paluku signée en juin dernier. Par cet arrêté rendu public le 19 juillet 2024, le ministre du Commerce extérieur avait annoncé l'interdiction de l'importation de bières et boissons gazeuses pour une période de 12 mois pour l'AFEC Sud Kivu. Cette décision est salutaire pour les opérateurs économiques de cette province évoluant dans le secteur brassicole. Rachel Kiesse nous fait le point de cette mesure au sud Kivu.
Cette décision n'est non seulement salutaire, mais aussi protège l'industrie locale au sud Kivu, exposée à la concurrence des produits venant des pays voisins. Joyeux Baïdika, président de la FEC Sud Kivu.
Une décision qui protège l'industrie locale et surtout que ces produits nous arrivent ici au sud Kivu à un prix plus bas que le prix de nos produits locaux. Et la décision qui a été prise, vraiment, nous pouvons considérer que c'était une bonne décision pour la protection de ces industries.
Pour la Ligue des consommateurs des services au Congo Kinshasa, Likoski Esbel, cette mesure prône la production et la consommation locale au sud Kivu. Mise au cabaret, président.
Ce qui a lieu de faire et ce que nous ne cessons de faire, c'est de continuer à sensibiliser les opérateurs économiques, sensibiliser les consommateurs pour que nous tous nous puissions focaliser notre attention sur la consommation des produits made in Congo. Et là, on sera en train de donner de la force à notre économie.
Cependant, la FEC signale que des lettres d'autorisation seraient accordées à certains opérateurs économiques extérieurs qui continuent d'importer leurs produits, cela facilité par la multiplicité de points d'entrée de frontières avec les pays voisins difficiles à contrôler au sud Kivu. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. Les recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dimanche à Nairobi, la capitale. Situé à Kahawa Ouest, l'immeuble a été complètement réduit en un tas de décombres. Selon le gouverneur de Nairobi, 2 personnes, dont une femme et un homme, ont été blessées par la chute des débris lors de l'effondrement de l'immeuble. Elle s'est trouvée à proximité du bâtiment au moment de l'incident. Sachez que 3 jours avant l'incident, une note émise par le comté de Nairobi avait ordonné aux habitants de quitter l'immeuble. Malgré cette évacuation, des doutes persistent quant à la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. La situation est donc préoccupante.
L'invité.
L'Assemblée nationale a aligné 513 députés nationaux au lieu de 500 au mépris de la Constitution, de la loi électorale et de son propre règlement intérieur. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL dénonce une gestion budgétaire des 2 chambres du Parlement contraire au règlement financier. En réaction, le bureau de l'Assemblée nationale précise que les 13 députés excédents sont ceux qui étaient invalidés par la Cour constitutionnelle lors de la précédente législature et qui devraient être remis dans leur droit sur recommandation de l'Union interparlementaire africaine. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur du CREFDEL, Valérie Madianga, est avec Michel Kifindangoy.
Monsieur Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous dénoncez l'alignement à l'Assemblée nationale de 513 députés au lieu de 500 au mépris de la Constitution, la loi électorale et de son propre règlement intérieur. Qu'en est-il concrètement?
Oui, comme vous le savez, depuis le mois de mai dernier, nous avons déclenché le suivi d'exécution de fonds alloués aux 2 chambres du Parlement. Et là, nous nous sommes focalisés à regarder qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2025. Nous avons constaté avec étonnement que au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau aligne au moins 513 députés, alors que la CENI avait proclamé 500 députés. Et si vous regardez le règlement intérieur, dit clairement que l'Assemblée nationale est composée de 500 députés. Et ce fait est même confirmé par la Constitution. Mais lorsque nous regardons, nous voyons qu'il y a au moins 13 députés supplémentaires qui sont alignés pour être rémunérés au cours de l'exercice budgétaire 2025. Pour nous, nous constatons que c'est une violation de la loi. On ne peut pas avoir cette marge supplémentaire de députés qui ne sont pas reconnus par le texte légal. C'est pour la première fois qu'on alloue au moins les crédits de rémunération pour la prise en charge des 513 députés. C'est une première.
Quelles sont les répercussions financières liées à une telle augmentation des chiffres des députés nationaux?
Oui, d'abord, il faut savoir que ces chiffres supplémentaires coûteront pratiquement 1 500 000 dollars américains au trésor public. Si vous regardez aujourd'hui, il y a plusieurs besoins qui nécessitent de financement dans notre pays. Vous avez nos frères, il y a des déplacés de guerre qui sont là, qui manquent même de matelas, qui dorment pratiquement à même le sol. Comment peut-on dilapider de fonds à financer une ligne budgétaire qui est pratiquement irrégulière? Et déjà, l'Assemblée nationale a un budget qui est pratiquement explosif. Mais si on y ajoute la prise en charge de ces 513, ça explose le budget et ça ne respecte pas la politique du gouvernement qui voudrait que l'on puisse réduire les trains de vie de l'État. Mais ça explose davantage.
L'Assemblée nationale explique l'excédent des 13 députés par le fait qu'au cours de la législature dernière, la Cour constitutionnelle avait invalidé 13 parlementaires qui avaient saisi en son temps l'Union interparlementaire africaine, qui a obligé à l'Assemblée nationale de la RDC de les remettre dans leurs droits. Pensez-vous que cet argument est fondé?
Monsieur les journalistes, je voudrais d'abord insister que les rémunérations, les paye à celui qui est en train de prester. On ne peut pas payer une rémunération pour résoudre un problème. Même si c'était une erreur qu'il fallait au moins corriger, moi je pense que les 13 parlementaires ne sont pas en train de prester. Ou bien en 2025, notre Assemblée nationale ne va jamais disposer de 513 députés. Nous aurons toujours 500 députés. Les 13 députés supplémentaires ne vont jamais siéger. C'est juste une erreur à corriger. Si vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà une marmite financière au niveau du Fonds spécial d'intervention qui augmente d'une année à l'autre, qui va au-delà des millions de dollars. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, le bureau pourrait trouver une solution adéquate pour résoudre ces problèmes imposés par les instances internationales. Et moi, je pense pas que ça pouvait nécessiter une allocation claire au niveau des rémunérations qui, à mon sens, est pratiquement une violation de la Constitution et une violation de la loi.
Que recommandez-vous donc pour que le budget 2025 reflète réellement les attentes du peuple congolais?
Nous recommandons la suppression pure et simple de ces 13 députés dans le projet de loi de finances 2025. Si par exemple le bureau de l'Assemblée nationale maintient les 513, ça devient une jurisprudence. Vous verrez qu'en 2026, les mêmes 513 vont encore revenir. Aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale est à mesure de nous dire que ce contentieux sera résolu de quelle manière? C'est ça, nous pensons qu'il faut aujourd'hui un débat clair au niveau de l'Assemblée nationale autour de cette question.
Monsieur Valéry Madianga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.